Chers auditeurs, bonsoir. Philippe Chaubravard, c'est avec une très grande joie que je vous retrouve pour cette nouvelle édition du Libre Journal de Philippe Pichot-Bravard, qui est diffusée en direct. Alors, cette émission comportera deux temps, deux parties. Dans la première partie, nous allons évoquer la figure et les travaux d'une personnalité, d'un grand maître que vous avez bien connu, chers auditeurs, parce qu'il est intervenu bien souvent à ce micro, à savoir le professeur Jean de Vigry, dont quatre conférences viennent d'être réunies dans un ouvrage intitulé « Un historien face à l'Église » avec une préface de Mgr Jean-François Amyot, prêtre du diocèse d'Angers, qui a été l'un des élèves du professeur Jean de Vigry, ouvrage qui nous est présenté par son gendre, Rémi Perrin, que je salue bien amicalement.
Bonsoir Philippe Pichot.
Et puis dans la deuxième partie, avec mon deuxième invité, Louis Giraud, professeur, chroniqueur, écrivain, nous évoquerons Chateaubriand politique. Alors, Rémi Perrin, vous venez de réunir quatre conférences qui avaient été prononcées par Jean de Vigry il y a une vingtaine d'années. Quatre conférences inédites qui intéressent l'histoire de l'Église, une histoire de l'Église dont on sait qu'elle a été l'une des grandes spécialités de ce grand maître, qui a commencé par étudier l'histoire de l'éducation, qui de là a glissé vers l'histoire de l'Église, sans pour autant abandonner l'histoire de l'éducation, et qui de là, tirant le fil de la crise de l'intelligence qui a marqué l'Occident au XVIIe siècle, s'est tourné vers l'histoire des idées politiques, publiant notamment Les Deux Patries, qui reste l'œuvre la plus importante d'une carrière très riche. Alors, cher Rémi, pouvez-vous nous dire quelques mots de ces quatre conférences qui sont quatre interventions, toutes quatre faites devant la communauté de Fanjeaux, à laquelle Jean de Vigry était très attaché.
Très attaché. Oui, bien sûr, cher Philippe. En fait, je voudrais quand même rappeler que, comme vous l'avez dit, donc, Jean de Vigry était à la fois un historien au sens conventionnel du terme, un grand universitaire, mais aussi un historien grand public, puisqu'il a publié des biographies comme Louis XVI ou sa biographie sur Madame Élisabeth.
Le sacrifice du soir. Voilà.
Il a commencé par l'histoire de l'éducation, ensuite l'histoire religieuse, et il en est venu à l'histoire des idées. Et ces conférences, en fait, viennent des dominicaines de Fanjeaux, qui, au moment de son décès, donc il y a 6 ans, sont venus voir la famille et leur ont remis une petite clé USB de 3 cm dans laquelle il y avait les 24 conférences que Jean de Vigry avait prononcées au fil du temps, à chaque fois le 4 août, le 4 août où il venait à Fanjeaux, le jour de la Saint-Dominique. Et c'était un très beau cadeau qu'il faisait à la famille, puisque toutes n'étaient pas faciles à retrouver par leur texte. Donc, dans ces quatre conférences, il y en a 3 qui ont été prononcées à Fanjeaux, une qui a été prononcée à l'Institut Saint-Pie-X, où je crois, Philippe Pichot, vous connaissez bien cet institut.
Bien sûr, où j'enseigne l'histoire de la Révolution française, faisant souvent référence aux travaux de Jean de Vigry.
Ah, c'est très bien.
Et l'histoire des idées politiques.
Alors, ces quatre textes ont la particularité de traiter de l'histoire de l'Église et aussi d'avoir un regard critique sur les idées qu'elle traverse.
Qui ont contribué à la crise qu'a connue l'Église au cours du XXe siècle.
C'est pour ça que face à l'Église, c'est un historien, mais c'est aussi, il a un regard Un regard critique, ce n'est pas seulement évidemment un conteur. La première d'entre elles est vraiment un cours d'histoire sur le Concordat. Ça peut se lire tout à fait comme un cours d'histoire, mais ça a une vibrante actualité parce que en fait, le Concordat, c'est donc le retour de la religion catholique au début du 19e siècle sous l'égide de Napoléon, mais ça pose la question tout à fait actuelle de la place de la religion catholique face au pouvoir politique.
Oui.
Et aujourd'hui, il y a des hommes politiques comme par exemple Éric Zemmour qui ont des réflexions sur l'importance de la religion dans l'organisation politique. Et finalement, chez Napoléon, il y a un peu cette idée-là, c'est que il a pensé qu'il fallait rétablir en fait le catholicisme en France, surtout pour des raisons d'ordre social.
Exactement. Jean de Vigré montre bien les motivations utilitaires de Napoléon Bonaparte, qui a négocié le Concordat et rendu aux catholiques la liberté de pratiquer la religion afin de mettre fin aux troubles qui, dans le prolongement de la guerre de Vendée et à l'époque de la chouannerie, ont marqué l'ouest de la France. Il souligne d'ailleurs, en le citant, que Napoléon Bonaparte, et c'est un passage que cite également Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe, lorsqu'il était allé en Égypte, avait manifesté une évidente bienveillance à l'égard de l'islam, parce que c'était un moyen d'asseoir sa présence en Égypte. Il y a une citation connue de Napoléon au Conseil d'État, disant « Je me suis fait catholique pour mettre fin à la guerre de Vendée, je me suis fait ultramontain pour gagner les esprits en Italie, je me suis fait musulman pour conquérir l'Égypte, et si j'avais eu besoin des Juifs, j'aurais reconstruit le temple de Salomon.
Ouais. » Au fond, c'est l'idée exactement inverse de la laïcité actuelle en France. Parce qu'en fait, la laïcité est plutôt un étouffoir des religions. Et on voit bien que la laïcité ne résiste pas forcément aux religions conquérantes. Vraiment, ça, c'est pas du tout le sujet de.
Oui.
Du
Concordat. Alors après, ce qui, cet article apparaît, cette conférence apparaît comme le prolongement d'un ouvrage qu'avait publié Jean de Vigré dans les années 80, qui est Christianisme et Révolution.
Oui.
Qui se présentait sous la forme de plusieurs leçons, et nous avons la leçon supplémentaire, celle qui vient après, et qui décrit l'Église après l'épreuve révolutionnaire, le Concordat, les motivations utilitaires de Napoléon, les ambiguïtés d'un Concordat, qui d'un côté rend aux catholiques et à l'Église la liberté sacramentelle, ce qui est précieux, et qui de l'autre place l'Église sous le contrôle de l'État et tente de l'instrumentaliser pour faire de l'Église un ferment d'ordre public, d'ordre social, se servir d'elle pour asseoir le pouvoir politique. Et ici, Jean de Vigry évoque notamment le catéchisme impérial qui faisait l'amour de Napoléon, du paiement de l'impôt, de la conscription, autant de devoirs religieux qui exposaient ceux qui voulaient s'y soustraire aux peines infernales. Ce qui était tout à fait... tout à fait excessif.
Il rappelle aussi comment, évidemment, c'est assez connu par ailleurs, comment il a malmené les papes aussi.
Voilà.
C'est là qu'on voit qu'il y a un rapport du pouvoir temporel très fort.
Avec l'invasion des États pontificaux, l'arrestation du pape, déporté à Savone, puis ensuite à Fontainebleau jusqu'au début de l'année 1814.
Ça, exactement.
Voilà. Et il montre l'attitude des évêques qui, après le Concordat, marqué par le souvenir des persécutions récentes, sont très soumis à l'égard du pouvoir temporel, même pour certains d'entre eux, un peu servile, mais qui, pour un certain nombre d'entre eux, retrouve une certaine fermeté dans les années 1809-1811, lorsque le pape est transféré à Fontainebleau, placé en résidence surveillée, et lorsque Napoléon tente de réunir un concile à Paris pour imposer à l'Église sa volonté. Tous les évêques ne suivent pas, tous les cardinaux ne suivent pas et retrouvent un peu de fierté et un peu de sens de leur liberté.
Mais d'un autre côté, il montre qu'il y a une remise en route de la pratique grâce à ça, et une pratique qui a pris pratiquement la moitié de la pratique oui. religieuse a disparu avec la révolution. Donc c'était oui. très violent, mais il y a une pratique, et il dit des choses que moi je ne savais pas, par exemple, c'est qu'il y a eu beaucoup de prêtres qui ont été ordonnés aussi dans la clandestinité pendant la révolution, enfin beaucoup, en tout cas plus de 600 prêtres, ça paraît quand même assez étonnant.
C'est tout un réseau clandestin, oui.
Compte tenu des circonstances, c'est tout à fait extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire que l'on arrivait à l'époque des persécutions révolutionnaires à ordonner dans la clandestinité davantage de prêtres qu'on y arrive de manière parfaitement officielle et tranquille aujourd'hui.
C'est ça. Ça peut faire réfléchir aussi.
Mais si vous me permettez de reprendre, justement, le Concordat. Oui, Giraud. Oui. Le Concordat 1801, justement, avait permis, même en calquant les circonstances administratives, de re-remplir les églises. Le concordat avait quand même permis à l'église, mine de rien, en étant contrôlé, de retrouver des fidèles, ce qui était assez impressionnant.
Oui, alors, il est plus réservé sur l'apologétique. Alors, ça, c'est un domaine que je maîtrise mal, mais que Jean de Vigry explique bien. C'est qu'en revanche, d'un point de vue théorique, les prêtres de cette nouvelle génération n'ont pas forcément l'enseignement thomiste. Ils ont un enseignement qui est très imprégné des Lumières, ce qui est, ça c'est plus inquiétant.
En fait, c'est ce qui montrait dans d'autres ouvrages, notamment dans l'Histoire et Dictionnaire du temps des Lumières, dans l'Institution des enfants, et dans sa thèse, à savoir que le bouleversement intellectuel survenu au cours du deuxième quart du XVIIe siècle, la révolution cartésienne et galiléenne a conduit à substituer à la méthode et à l'enseignement thomiste une méthode et un enseignement cartésien. Les professeurs de philosophie commencent à adopter Descartes dans les années 1660 et après 1700, dans les années 1700-1715, dans tous les collèges, les professeurs de philosophie ont abandonné saint Thomas au profit de Descartes, ce qui fait que au XVIIIe siècle, en France, en Italie, en Espagne, à part peut-être dans quelques couvents espagnols, plus personne ne connaît saint Thomas. Et l'on a une anecdote qui le montre très bien. L'abbé Emery, qui était supérieur du séminaire de Saint-Sulpice, qui pendant la Révolution, a été emprisonné à la Concordat, qui a passé de longs mois organisant les secours spirituels aux prisonniers, souligne que la prison lui a fait le plus grand bien, parce qu'elle lui a donné le temps de découvrir la Somme théologique, ouvrage essentiel et qu'il ne connaissait pas. Et là, on apprend que le directeur du premier séminaire de France n'avait jamais lu saint Thomas d'Aquin à l'âge de 60 ans. Voilà. Et ça dit tout. Et ça explique que l'Église ne disposait pas au XVIIIe siècle de l'arsenal argumentaire nécessaire pour combattre les idées des Lumières.
Oui. Et donc évidemment, ça continue après la Révolution. La Révolution, évidemment, pas arrangé les choses.
Ça continue, il y a une redécouverte du thomisme qui part de l'Italie, qui remonte en France au milieu du 19e. Le thomisme est mis à l'ordre du jour par Léon XIII, en 1879, mais de ce thomisme, il y a différentes variantes. Il y a le thomisme, le néo-thomisme, et le thomisme qui est cultivé à la fin du 19e et au 20e et n'est pas toujours un thomisme de stricte observance. C'est parfois un thomisme déformé. Voilà. La deuxième conférence porte sur
Alors là, on va pas s'y attendre. Oui, sur les miracles, mais ce sera un peu long. C'est un texte très intéressant, parce que c'est un témoignage d'un médecin du Bureau des constatations médicales de Lourdes, qui a retranscrit une conférence de 1925 que Jean de Vigry a repris en 1990 et en a fait lui-même une conférence sur la conférence, si je puis dire. Et il avait beaucoup travaillé déjà sur les miracles, Jean de Vigry, puisqu'il avait fait un colloque de Fontevraud en 1982 sur les miracles du XVIIe et du XVIIIe siècle, notamment à Notre-Dame des Ardiliers, par exemple. Donc c'est un sujet qui l'a beaucoup, toujours beaucoup intéressé. Et là, il prend beaucoup de hauteur, puisqu'il montre aussi comment les miracles sont acceptés ou plus acceptés par l'Église. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des milliers de miracles, mais très peu sont reconnus officiellement par l'Église. Donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant la façon dont il analyse le miracle, il montre les caractères propres du miracle. Et c'est un texte vraiment plein d'exemples et c'est assez passionnant. Et ensuite, il y a deux autres...
conférences. La deuxième, qui sont très liées l'une à l'autre, puisqu'elles concernent toutes les deux la crise de l'Église. La première, c'est le début, et le deuxième, c'est... l'apogée de la crise de l'Église. La première conférence est intitulée 1950 et les débuts de la crise de l'Église, qui est une étude commentée de la correspondance de deux prêtres angevins, professeurs à l'Université catholique de l'Ouest, Monseigneur Lusseau et le chanoine Cata.
Tout à fait. Ouais. Voilà. Correspondance, donc... Jean de Vigry a retrouvé, ou c'est l'opus sacerdotal de l'époque qui lui avait remis cette correspondance, probablement un peu après la mort du chanoine Cata. Chanoine Cata était professeur d'histoire, je crois, à Angers, si je ne me trompe pas, et Mgr Lusseau, professeur de théologie, mais ils étaient contemporains, ils se connaissaient bien. L'un des deux, c'est Lusseau, était un disciple du père Le Floch, du séminaire de Rome.
Avec lequel il est resté en correspondance jusqu'à la mort de celui-ci en 1950.
C'est ça. Et d'ailleurs, cette correspondance date de 1950, donc c'est juste avant ou après sa mort. Et ces deux prêtres correspondent avec un prélat romain qui s'appelle le père Mura.
Religieux de Saint-Vincent de Paul.
Et ils font état, en fait, non pas de la déchristianisation, mais de certains signes progressistes, en fait, dès les années 50, dans l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore assez loin avant le Concile, on est 15 ans avant le Concile, et déjà, il y a des signes assez inquiétants, quand même, et eux, ils sont assez très attentifs à remarquer ces premiers signes.
Alors, ils notent notamment la complaisance de certains prêtres vis-à-vis du communisme.
Oui,
et Jean de Vigry souligne que ce n'est pas un phénomène tout à fait nouveau, car ces marques de complaisance étaient déjà visibles dans les années 1930.
Oui.
Tout cela remonte au lendemain de la crise provoquée par la condamnation de l'Action française,
oui,
qui a créé au sein de l'Église de France un déséquilibre au profit de la démocratie chrétienne et d'un christianisme progressiste. La condamnation de l'Action française a permis à l'école du Sillon, condamnée 15 ans plus tôt par Saint-Pie X, de relever la tête et de revenir en première ligne. Voilà. Donc il note ce trait, il note également certaines bizarreries liturgiques, des initiatives étranges prises dans les paroisses parisiennes.
Messe en français en
décembre
1950.
Avec un canon totalement inventé.
C'est ça.
En 1950.
Donc assez tôt, par rapport au concile, où Le Floch avait aussi souligné que la présence réelle de l'Eucharistie était de plus en plus considérée parfois comme un symbole, et non pas comme une réalité. Donc ça, c'est très embêtant.
La manière dont des idées matérialistes se répandaient au sein de l'Église et au sein de la hiérarchie, ce qui conduisait l'Église à devenir de plus en plus accueillante aux théories évolutionnistes de Teilhard de Chardin, alors même qu'au même moment, le pape Pie XII publiait une encyclique pour réfuter ces idées encycliques dont le monde catholique en France auquel le monde catholique en France n'a pas fait écho. Même les meilleurs journaux, il cite quelques certains exemples, sont évoqués dans cette conférence. Il évoque aussi le fait de l'influence jugée pernicieuse par ces deux prêtres de certains écrivains catholiques.
Ouais. Et certains organes de presse aussi.
Et de certains organes de presse.
Ouais. Des écrivains comme, par exemple, Julien Green. Pourtant, c'est des grands écrivains.
oui, alors, ce sont de grands écrivains. Ils parlent de Mauriac, de Maritain, de Gilson, de Green, etc. Et Jean de Vigry, d'ailleurs, souligne que... il y a une analyse critique à faire de ces lettres et qu'il y a sans doute un peu d'excès, peut-être même un peu de cléricalisme de la part de ces prêtres qui ne voient pas d'un bon œil que des laïcs puissent avoir une telle influence au sein de l'Église et parmi les fidèles.
Oui, il y a un peu de ça aussi. Ouais.
Voilà. Donc, Jean de Vigry analyse la chose de manière très fine selon son habitude, mais il souligne à quel point ces écrivains pouvaient avoir à l'époque un écho finalement plus important que le pape Pie XII lui-même.
Oui, c'est ce qu'il reproche. Et puis alors, le dernier épisode de ce texte, c'est quand il raconte que le chanoine Cata et le monseigneur Lussault vont à Rome, parce qu'ils, un peu naïvement, se disent, on va essayer d'alerter le pape sur cette situation déplorable qui est en train de traverser l'église romaine. Et ils pensent qu'ils vont être au-dessus, évidemment, sur ces questions. Et malheureusement, ce n'est pas le cas.
Mais ils demandent une audience privée.
Ce qui n'est pas accordé à tout le monde, évidemment.
Et pour alerter le pape sur la situation. Et ils ne l'obtiennent pas.
Voilà. La fin est assez triste.
Et ce qui les frustre beaucoup, ce qui accable un peu leur morale, d'autant plus qu'ils constatent que les réactions aux phénomènes qu'ils constatent sont peu nombreuses.
Oui.
Et que la combativité de la hiérarchie est faible. Il souligne notamment que les évêques sont déjà accaparés par leurs fonctions administratives et qu'ils ne se soucient plus des questions doctrinales.
Oui. Et puis ces deux prêtres n'ont pas le pouvoir, en fait, il ironise un tout petit peu là-dessus, c'est qu'ils ont un pouvoir assez limité, ils sont tous les deux angevins, mais ils n'ont pas un pouvoir national d'alerter, en fait, tout simplement. Donc c'est un peu triste. Et en même temps, c'est très précurseur, donc c'est intéressant, cette analyse de quelques lettres, en fait, est très intéressant d'un point de vue de l'histoire récente de l'Église.
Oui, parce qu'on est une dizaine d'années avant le Concile, et l'on mesure l'isolement du pape Pie XII, et l'on mesure que la révolution qui a éclaté à partir de 1962 dans l'Église n'est pas partie de rien. Elle a des racines qu'il faut chercher dans les années antérieures et sans doute assez loin auparavant.
Tout à fait.
Alors la quatrième conférence qui est que vous avez réunie dans ce recueil, Un historien face à l'Église, elle raconte un épisode bien connu des plus anciens de nos auditeurs, auquel certains d'entre vous, chers auditeurs, ont peut-être participé, l'été 1976, où la crise des ordinations sacerdotales. Les premières ordinations effectuées par Monseigneur Lefebvre, la réponse de Rome, les grandes messes de Lille et de Besançon, qui ont donné une visibilité à ce monde de catholiques qui souffrait de la révolution conciliaire, et qui, à l'époque, était dans le silence et l'abandon. Il y avait très peu de chapelles, très peu de paroisses. Il fallait parfois faire 200-300 kilomètres pour assister à une messe traditionnelle, ce qui rendait la chose très difficile. les prêtres qui tenaient bon étaient très peu nombreux et qui pouvaient tenir bon étaient très peu nombreux. On était au pire de la crise et tout d'un coup, avec ces deux messes, ce monde de la tradition découvre qu'il est une force.
Ouais.
Et ces fidèles découvrent qu'ils ne sont pas tout seuls. Que ce n'est pas un ultime noyau qui est attaché à cette messe traditionnelle, mais qu'il y a des milliers de fidèles qui se pressent à la messe de Mgr Lefebvre.
Oui, il y a des centaines de milliers de Français qui vont soutenir Mgr Lefebvre, qui va devenir un personnage public à ce moment-là, parce qu'avant 1976, il n'est pas connu du très grand public. Il faut rappeler quand même aux jeunes catholiques traditionnalistes d'aujourd'hui, qui n'ont pas connu cette période, parce que 1976, c'est il y a 50 ans quand même, hein. Que la tradition s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. Il y a eu une lutte. Et en lisant ce texte assez court de Jean de Vigré, on se rend compte que Mgr Lefebvre est vraiment le grain de sable qui va gripper la machine progressiste de l'Église, en tout cas en France, déjà.
Et puis on organise un sondage. Voilà. Et on découvre qu'un quart des catholiques le soutient.
Ce qui serait peut-être pas le cas aujourd'hui.
Non. Bon.
Mais donc, à l'époque, il y a un courage quand même assez étonnant Il y a un début de persécution quand même de l'Église, il faut le dire, puisque sa fraternité qui a 5 ans d'âge, qui a été créée je crois en 1970, est interdite en fait par le Vatican, ce qui n'empêche pas Mgr Lefebvre de continuer à former des séminaristes et à ordonner des prêtres. Et il raconte alors évidemment l'entrevue qu'il va avoir avec Paul VI, et là c'est raconté de façon très un peu rocambolesque. Puisqu'il utilise ce que Madiran appelle une espèce de méthode. On essaie de convaincre à l'un que c'est l'autre qui veut le rencontrer et vice-versa. C'est-à-dire qu'on dit à Mgr Lefebvre, le pape Paul VI veut absolument vous rencontrer. Et puis après, on dit au secrétaire de Paul VI, oui, Mgr Lefebvre veut vous rencontrer pour que la rencontre se fasse. Et là, il y a eu des analyses tout à fait différentes selon les journalistes. En fait, par exemple, Michel de Saint-Pierre était très. Très, très optimiste, il pensait que tout allait s'arranger, on allait aplanir la situation. D'autres étaient beaucoup plus sceptiques sur le résultat de l'entretien.
Et le fait est que Mgr Lefebvre était venu lors de cet entretien qui a lieu 2 ou 3 jours après la grande messe de Besançon.
Oui.
Il était venu demander
en septembre 76.
Que les catholiques fidèles à la tradition de l'Église puissent avoir droit de cité dans l'Église.
Oui, c'est ça.
Voilà ce qu'il était venu demander et il ne l'a pas obtenu.
Il voulait avoir des églises et que oui, exactement.
La réponse, elle a été apportée par Benoît XVI 30 ans après, par le motu proprio Summorum Pontificum en 2007, qui, après 35 ans d'épreuves, a rétabli la paix liturgique.
Oui.
Cette paix liturgique, un temps menacée en 2021 et que Léon XIV semble vouloir rétablir, ayant demandé cette semaine aux évêques de France de se montrer généreux avec les fidèles qui sont sincèrement attachés à ce qu'il est convenu d'appeler maintenant le vetus ordo, le rite ancien. Le rite était autrefois extraordinaire, maintenant il est ancien.
Oui.
Se montrer généreux avec ses fidèles, retrouvant le langage paternel qui avait été celui de Benoît XVI à l'égard des fidèles de la tradition.
Oui. Alors c'est d'une brûlante actualité évidemment, puisqu'on est à l'approche de nouveaux sacres qui doivent être...
Qui sont annoncés
pour le 1er juillet,
pour le 1er juillet
prochain. On ne peut pas savoir comment le Vatican réagira à ces sacres, alors qu'à l'époque...
Avec de grandes manœuvres qui ont lieu en ce moment pour tenter de trouver un accord,
oui.
D'organiser des rencontres, dont tout se joue en ce moment avec tout le jeu diplomatique qu'impliquent les déclarations publiques.
À l'époque, la fraternité Saint-Pie X était balbutiante, on peut dire, en 75, 76, alors qu'aujourd'hui, elle est quand même très installée. Donc, on n'est pas dans la même situation, je pense.
On est dans une situation effectivement différente. Alors, ce qu'il y a dans cette conférence, deux autres aspects. Jean de Vigry évoque l'hostilité des évêques à Mgr Lefebvre, des évêques de France, et cela fait écho au témoignage donné par un prélat qui a fait la plus grande partie de sa carrière ecclésiastique à Rome, qui était Mgr Jacques Masson, qui a laissé derrière lui, après sa mort en 2011, un texte racontant son parcours et la longue histoire, qui est un très beau et un très intéressant témoignage sur l'histoire de l'Église de France dans les années 1970. Mgr Jacques Masson, ayant dans les années 74, 75, 76, rencontré notamment en marge de la conférence épiscopale de Lourdes 1974, celle où Mgr Lefebvre s'était proposé de venir répondre aux questions de ses frères dans l'épiscopat, leur expliquer ce qu'il faisait à Écône et leur demander simplement qu'on le laisse faire l'expérience de la tradition, puisque tout le monde fait des expériences. Pourquoi ne ferait-il pas la sienne? Pour qu'on le laisse faire cette expérience. Et les évêques de France avaient opposé une fin de non-recevoir, lui faisant savoir qu'il n'était pas le bienvenu. Et en marge de cette déclaration, certains évêques avaient confié à Jacques Masson que Mgr Lefebvre, on le pousserait au schisme.
Ah oui, c'est ça.
Voilà, dès 1974, il y avait l'intention de créer une situation qui pousse vers l'extérieur Mgr Lefebvre et ses fidèles.
Et puis il y a la condamnation de Paul VI aussi, parce qu'après l'entrevue entre Paul VI et Mgr Lefebvre, il y a une attente, et un mois après, Paul VI publie une lettre publique où il accuse Mgr Lefebvre de rébellion insoutenable. Il insiste sur le fait que Mgr Lefebvre est un évêque seul, un évêque seulement, donc un évêque isolé, comme vous le dites, et qu'il le somme de reconnaître l'autorité de Vatican II. Parce qu'en fait, le point d'achoppement, c'est Vatican II, ce que, évidemment, Mgr Lefebvre attaque assez violemment, mais le véritable enjeu, c'est la messe, c'est derrière, même si les deux sont liés, évidemment.
Et puis, il y a un dernier aspect dans cette conférence, c'est la déclaration des 30.
Oui. Des universitaires qui sont courageux.
Des universitaires de soutien à Mgr Lefebvre, dont le chef d'orchestre était Jean de Vigry lui-même.
Oui, oui. Il a rédigé donc, cette déclaration qui a été publiée dans plusieurs journaux, je crois dans Le Monde ou Le Figaro, en tout cas dans les principaux quotidiens français. Et il y avait des figures de l'université française que vous connaissez certainement, Philippe, comme Roland Mounier, par exemple, ou d'autres.
Et la section d'histoire du droit de l'université est bien représentée dans cette déclaration des 30, dont Jean de Vigry raconte l'histoire, donne le texte et rapportant ensuite les réactions nombreuses qu'a suscité cette déclaration qui a contribué à faire connaître Mgr Lefebvre et à montrer qu'il y avait dans l'Église de France une fraction importante des fidèles qui était profondément déroutée par la révolution conciliaire, la manière brutale dont avait été appliquée le concile, la nouvelle messe, et ces fidèles méritaient une réponse plus sérieuse que celle du silence ou du mépris.
Tout à fait.
Alors, ce livre est préfacé par Mgr Jean-François Amiot, qui est un prêtre du diocèse d'Angers, qui a été, avant d'entrer au séminaire, professeur, qui a été l'élève de Jean de Vigry à l'université d'Angers, et qui a conservé tout au long de sa vie des liens étroits avec Jean de Vigry, puisque lorsqu'il accompagnait l'évêque dont il était le secrétaire à Lourdes, après avoir déposé son évêque à Lourdes, il retournait passer deux jours à Verlac, quelques jours avec Jean de Vigry. C'était pour lui l'occasion d'échanger avec lui. Et je me souviens que lors de ma dernière visite à Jean de Vigry, 5 mois avant sa mort, au mois de juillet 2019, une demi-heure avant de partir, j'étais dans le bureau de Monseigneur Amiot pour attendre la lettre qu'il allait me confier pour que je la remette. Ouais. Et au retour, j'avais la réponse de Jean de Vigry à Monseigneur Amiot. Et dans cette préface, Monseigneur Amiot souligne à quel point Jean de Vigry a été pour lui un grand maître, exprimant dans cette préface l'avis de beaucoup d'étudiants qui ont eu Jean de Vigry pour professeur. Maître en études universitaires, Jean de Vigry inspirait le respect, même aux étudiants barbares que nous étions. La révolution de 1968 nous avait rendus plus ou moins orphelins. Lui nous reliait à la grande tradition de l'alma mater. Un maître, c'est un peu un père spirituel. Il nous engendrait à une vraie vie intellectuelle. Il nous donnait à lire de bons auteurs, nous aidait à travailler avec méthode, à vérifier les sources et à les questionner avec intelligence. Il fallait d'abord amasser dans notre mémoire les connaissances qui nous faisaient défaut, puis les ordonner, hiérarchiser les faits et montrer l'enchaînement des causes. À la fin des cours, il écoutait avec patience nos objections, nous apprenait à les formuler correctement et à argumenter de façon objective. Il tempérait nos remarques, d'autant plus véhémentes qu'elles étaient moins fondées. Trop de passion nuit à la découverte de la vérité. Selon l'étymologie, l'historien est celui qui sait. Mais sa connaissance du passé est toujours partielle, il reconnaît les limites de son savoir. Jean de Vigry avait l'humilité du véritable historien. Et il montre que Jean de Vigry était non seulement un maître comme professeur, mais qu'il était également un maître comme
civilité,
écrivain,
en civilité,
un maître en civilité, un véritable gentilhomme, et puis un maître aussi en chrétienté. Dit ce prêtre remarquable qui est Monseigneur Amiot, Jean de Vigry fut enfin pour moi un maître en chrétienté.
Voilà. Il a fait un très très beau portrait, et vraiment émouvant de Jean de Vigry, parce que très senti en fait.
Oui, oui, oui.
Pas littéraire.
Nourri de sa connaissance de l'homme et puis de longues méditations, mais tout ce qu'écrit Monseigneur Amiot est toujours très fin, très sensible, très... Et Monseigneur Amiot n'a pas pour habitude de prononcer de vaines paroles. Il a été notre chapelain à Angers pendant 9 ans et ses homélies étaient toujours remarquables, simples et très nourrissantes. Monseigneur Amiot a passé 25 ans comme secrétaire de l'évêque de Belley-Ars dans le diocèse du curé d'Ars.
Et ça a déteint sur lui. Hein,
et le curé d'Ars a un peu déteint sur lui. Bon.
Merci beaucoup Philippe Pichot-Bravard d'avoir évoqué...
C'est moi qui vous remercie, Rémi Perrin, d'être venu parler de cet ouvrage. Nous allons marquer, chers auditeurs, une courte pause pendant laquelle vous allez, je pense, écouter le traditionnel Bobino. Et après quoi, nous allons ouvrir le deuxième volet de cette émission consacrée à Chateaubriand politique en compagnie de Louis Giraud.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter ce petit Bobino qui vous rappelle que notre radio est une radio libre et indépendante. Et que elle vit grâce à la générosité de ses fidèles auditeurs et de ses amis, et que par conséquent notre radio a besoin de vous pour continuer à fonctionner et pour réaliser les investissements qui sont nécessaires à son développement, qui lui permettent de vous offrir des émissions de qualité. Alors, je suis maintenant en compagnie de Louis Giraud pour évoquer Chateaubriand politique. Louis Giraud, qui est professeur de français, chroniqueur, qui intervient au micro de Radio Courtoisie de temps à autre, sur Ligne Droite, n'est-ce pas ?
C'est ça.
Voilà, qui est historien du droit, dont les recherches portent sur la contre-révolution et sur Chateaubriand, qui est également l'auteur de 2 ouvrages, « Oser l'antifestivisme », une étude sur Muret et son activité, et puis un roman, l'impossible roman de M. Voilà. Alors, Chateaubriand politique, le poète et l'écrivain, fut une grande personnalité politique, jouant un rôle important entre 1814 et 1830 sous la Restauration. Son œuvre littéraire illustre le rôle qu'il a joué. Les mémoires d'outre-tombe font écho au rôle joué par Chateaubriand, qui fut pair de France pendant 15 ans, qui a été à plusieurs reprises ambassadeur de France à Berlin, à Londres, qui a représenté la France au congrès de Vérone, et qui ensuite a été ambassadeur à Rome, et dans l'intervalle, ministre des Affaires étrangères, en 1822-1824. Plusieurs de ses ouvrages occupent une place importante dans notre histoire politique, notamment « De Bonaparte et des Bourbons », ouvrage publié en mars 1814 au moment de l'effondrement du Premier Empire, ouvrage qui a contribué à porter à l'Empire le coup de grâce dans l'opinion et qui a contribué par ailleurs à attirer l'attention du public sur une maison de Bourbon alors oubliée, contribuant ainsi à la restauration de Louis XVIII. Le deuxième ouvrage marquant est « La monarchie selon la charte », publié en 1816, contribution décisive à l'adoption en France du régime de la monarchie parlementaire, et puis le congrès de Vérone, dans lequel Chateaubriand raconte ce moment important de l'histoire diplomatique du début des années 1820, au cours duquel il a représenté la France en qualité de ministre des Affaires étrangères, parachevant la restauration de la position de la France dans le concert européen, commencé par le duc de Richelieu. Alors Chateaubriand politique, c'est d'abord un combat politique servi par le génie littéraire et par une plume incisive.
Chateaubriand, de toute façon, on peut le dire, c'est dans tous les cas l'un des plus grands hommes politiques qu'on ait connu, l'un des plus grands écrivains. Ça, c'est un fait. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir son évolution. C'est-à-dire qu'il commence réellement libéral, comme beaucoup d'émigrés qui avaient connu notamment l'influence de Burke, etc. Mais j'imagine qu'on en parlera un peu plus tard.
C'était avant la Révolution un lecteur de Rousseau, qui a nourri ses méditations solitaires au fond des bois de Combourg.
Et c'est pour ça justement que beaucoup, à mon sens, d'hérétiques sur le romantisme disent que Rousseau a été l'un des précurseurs du romantisme, parce que justement avait influé Chateaubriand. Mais la majorité de toute façon de ces auteurs avaient été quand même influés par ces gens-là, influencés, pardon, quand vous voyez quelqu'un comme Bonald. Bonald était nourri des Lumières.
Nourri de Rousseau, nourri de Mably, nourri de Montesquieu.
Donc évidemment qu'il y a aussi, ce sont des produits de leur époque. Chateaubriand en plus, en tête, bien sûr qu'après il a connu évidemment les maîtres, etc., mais avait connu aussi l'exil. Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir comment il va être un acteur politique inimaginable, à la fois diplomatique et dans l'intérieur.
J'évoquais à l'instant la plume incisive. Je voudrais en offrir deux ou trois exemples aux auditeurs. Je ne résiste pas à quelques extraits particulièrement incisifs qui, je l'espère, donneront aux auditeurs le goût de redécouvrir les mémoires d'outre-tombe, notamment lorsque Chateaubriand évoque l'épopée de la Grande Armée, sensible au génie de Napoléon, mais dans le même temps, épouvanté par son despotisme et par les monceaux de cadavres accumulés par les campagnes napoléoniennes, et notamment à propos de la campagne de Russie, dont on sait à quel point elle a saigné la France en lui faisant perdre 500 000 hommes.
Vous parlez sûrement de l'état de santé de l'empereur, c'est
et
ça
j'évoque le bulletin de la Grande Armée qui commente le 3 décembre 1812 l'état de la situation et qui se conclut en voulant rassurer les Français sur l'état de santé de sa majesté impériale. Quel résumé de tant de victoires. Bonaparte avait dit au directeur « Qu'avez-vous fait de 100 000 Français, tous mes compagnons de gloire, ils sont morts ?» La France pouvait dire à Bonaparte « Qu'avez-vous fait en une seule course des 500 000 soldats du Niémen, tous mes enfants ou mes alliés, ils sont morts ?» Le bulletin conclut, comme plusieurs autres par ces mots, « La santé de sa majesté n'a jamais été meilleure. » Et là, Chateaubriand conclut, « Famille, séchez vos larmes, Napoléon se porte bien. »
C'est ce qu'on peut appeler de la violence polie. C'est une phrase extraordinaire, mais il a eu tout de même deux, trois phrases, même sur celui dont il a quand même assuré la fidélité, même Louis XVIII. J'ai relevé deux phrases assez extraordinaires, l'un sur quelqu'un qui pourtant, c'est la fidélité, c'est Louis XVIII, mais un autre aussi, c'est des cases. C'est très intéressant comme il est décrit. Deux phrases me marquent souvent, c'est notamment quand il parle de Louis XVIII, quand il dit « Sans être cruel, ce roi n'était pas humain. La catastrophe tragique ne l'étonnait ni ne le touchait pas. Il se contenta de dire au duc de Berry qui s'excusait d'avoir eu le malheur de troubler par sa mort le sommeil du roi. J'ai fait ma nuit. » C'est assez magnifique. Et une autre qui est fabuleuse, c'est celle quand il parle de Descases, qui... On sent que c'est un ami quand il en parle. Quand il dit « Il se forma bientôt en faveur d'un nouveau favori, une coalition formidable de bêtises. » Il va le représenter comme le ravi de la crèche de la politique de cette époque-là. Ce qui est assez fabuleux quand on connaît ben parfois les erreurs de Chateaubriand en politique.
Alors, deux autres passages que je souhaiterais évoquer à cet égard pour montrer la qualité du coup de griffe à propos de la Chambre des Pairs à laquelle Chateaubriand a appartenu pendant 15 ans et qu'il connaissait par conséquent très bien. Il y a toute une description qui est très drôle. Je cite « Une chambre aristocratique est sourde. Sans tribune, à huis clos devant des vieillards, reste desséché de la vieille monarchie, de la révolution et de l'empire. Ce qui sortait du ton le plus commun paraissait folie. Un jour, le premier rang des fauteuils, tout près de la tribune, était rempli de respectables pairs, plus sourds les uns que les autres, la tête penchée en avant et tenant à l'oreille un cornet dont l'embouchure était dirigée vers la tribune. Je les endormis, ce qui est bien naturel. Un d'eux laissa tomber son cornet. Son voisin, réveillé par la chute, voulut ramasser poliment le cornet de son confrère. Il tomba. Le mal fut que je me pris à rire, quoique je parlasse alors pathétiquement de je ne sais quel sujet d'humanité. »
Chateaubriand, par Chateaubriand.
Et puis, cet autre passage où il évoque le moment où il va quitter la Chambre des Pairs, son dernier discours, le moment où les chambres vont abandonner Charles X. Il a, lui qui s'apprête seul à essayer de convaincre la Chambre des Pairs de rester fidèle à la légitimité, il a ce trait assassin. Il y avait une impatience de parjure dans cette assemblée que poussait une peur intrépide. Chacun voulait sauver sa guenille de vie. Alors, Chateaubriand... dans l'histoire des idées politiques, trouve sa place au sein de la pensée conservatrice, d'une contre-révolution qui est nourrie à la fois par Edmund Burke et par Louis de Bonald, de ce qui est loin d'être incompatible, Louis de Bonald ayant lui-même été en bonne partie tributaire des analyses d'Edmund Burke. Notamment, Chateaubriand a été le chef d'orchestre d'une opposition royaliste-conservatrice entre 1818 et 1820, qui a mené le combat des idées en mobilisant tous les talents du parti royaliste de manière suffisamment efficace pour conduire ce parti au pouvoir en 1821.
Il ne faut pas oublier, à mon sens, que on est toujours le fruit de son histoire et que Chateaubriand va redécouvrir tout cela. Effectivement, il est nourri par Bonald Burke, nourri par Mestre aussi, notamment par rapport à l'ancienne France, tout simplement. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs quand on le voit, c'est que bien sûr Bonald est l'un des grands-pères de la contre-révolution, pardon, mais les deux grands théoriciens sont étrangers. Donc c'est-à-dire qu'il a en plus des influences étrangères en réalité, de vision frontalière et presque anthropologique. C'est pour ça que cette contre-révolution que va présenter au tout début François René, ça va être plutôt libéral. Je pense que vous serez...
Burke était un Whig.
Je pense qu'il est anglais. C'est peut-être le seul anglais qu'on peut accepter dans l'histoire de France.
Mais
si vous
c'est, c'est peut-être un peu excessif. on aurait quelques autres noms à ajouter. Mais Burke était un Whig, et ce qui est intéressant dans la critique que Burke fait de la Révolution, c'est qu'il oppose à la Révolution la cause des libertés. La Révolution prétend instaurer la liberté. Et Burke répond que ces déclarations en faveur d'une liberté abstraite, de droits de l'homme abstrait, d'un homme abstrait, sont dangereuses pour les libertés concrètes de l'homme concret.
Vous remarquerez que chez Burke, comme chez Chateaubriand, d'ailleurs, parce que Chateaubriand, quand il écrit son premier grand livre politique, Les Essais sur la Révolution, il n'est pas forcément défavorable à la Révolution elle-même, à la base. Il va être défavorable parce qu'elle va arriver. Burke, au tout début, pareil, dit que la Révolution, il n'y a pas tout à jeter. Il préfère un roi, évidemment, il n'y a pas tout à jeter. Mais il dit juste, si jamais on ne respecte pas ce que la Révolution a dit, ça va être une sorte de dictature qui va apparaître. Et qu'est-ce qu'on a eu en 93 ? La terreur.
Chateaubriand témoigne bien dans l'Ancien Régime, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, qu'en 1789, il n'était pas davantage d'un côté ou de l'autre. Ce qui le fait réagir, ce sont les têtes de Berthier de Sauvigny et de Foulon qu'il voit de la fenêtre de son hôtel le 22 juillet 1789. Il n'a rien à voir avec ces banquets de cannibales. Et Burke a la même réaction, non pas après cet événement précis, mais après un événement comparable, le récit de l'invasion du château de Versailles par les manifestants le matin du 6 octobre 1789, qui manifestait l'ambition de massacrer la reine Marie-Antoinette. Voilà. Or, Burke se souvenait de Marie-Antoinette, qu'il avait connue jeune dauphine lors de sa venue, lors de sa visite à Paris et à Versailles en 1773. Il avait fréquenté les salons, il avait été épouvanté par le goût des abstractions, la facilité avec laquelle les philosophes jonglaient avec des abstractions, et il était allé à Versailles, il avait vu la jeune dauphine Maria Antonia, et il était rentré de Versailles avec des étoiles dans les yeux. Et d'imaginer que l'on ait pu vouloir découper en morceaux cette princesse qui, depuis 15 ans, occupait une place dans un coin de son cœur, était pour lui le comble de la barbarie, et il a un paragraphe très éloquent sur ce sujet. Et c'est le début de sa réaction contre la révolution. Ce qu'il rejette, c'est l'abstraction, et derrière l'abstraction, c'est la violence destructrice de la révolution. Et Chateaubriand rejette la même chose. Il y a un autre passage dans les Mémoires d'Outre-Tombe où Chateaubriand évoque les conversations chez Malesherbes avec son frère Jean-Baptiste et quelques autres, qui étaient, semble-t-il, assez passionnés. Et Chateaubriand dit « Je n'y participais que médiocrement, sauf lorsqu'il était question de la liberté et de la, dignité de l'homme et de passion politique. »
Ce souci-là, je vais revenir sur ce que vous dites, parce que j'ai pas forcément la maladie, je suis pas forcément d'accord. On me dirait que c'est un débat, donc nous sommes là pour ça. Dans le sens où, quand je dis qu'il n'y a pas tout acheté, c'est le système lui-même. C'est-à-dire que, qu'il y ait des zélés et des fanatiques de la première heure. Évidemment. Toutefois, quand vous regardez ce qu'a donné déjà dès la première constitution, c'était quand même une monarchie qui devenait parlementaire, c'est une démocratie qui devenait constitutionnelle, et c'était un peu, je ne fais pas du tout l'avocat du diable, très loin de là, mais on est quand même un peu aussi sur la faute de Louis XVI qui a fait que du veto de partout, et qui à force ont augmenté.
Il n'y a pas eu du veto partout, il y en a eu 3-4, il était dans son droit, et c'était pour défendre... Pour les deux tiers d'entre eux, il y a eu deux vétos pour défendre des persécutions contre les prêtres réfractaires, et le troisième, c'était pour empêcher un camp de fédérés dont les révolutionnaires entendaient se servir contre lui. Alors, il voulait établir un camp de fédérés prétendument pour faire face à l'invasion, et en réalité, l'installer à l'ouest de Paris, comme si les envahisseurs attaquaient Paris par l'ouest, ce qui ne s'est, dans notre histoire militaire, jamais vu.
La nouveauté n'engage pas certaines choses.
Mais les Allemands sont des gens simples. Quand ils nous envahissent, ils passent par l'Est. Et la route de l'invasion est à peu près toujours la même.
Vous avez tout à fait raison. Autant prendre le chemin le plus court. Mais, c'est-à-dire que, je dis, quand vous relisez bien, et notamment, ça s'explique très très bien Philippe Reynaud dans la préface des réflexions.
Sur la Révolution en France, ouais, de Dunberg.
Qui est une préface qui est un chef-d'œuvre. Enfin, à mon sens, c'est un véritable chef-d'œuvre. Tant que ça reste constitutionnel, et Burke nous l'explique très bien à l'intérieur de son livre, si ça ne respecte pas ses promesses, non pas de la liberté, mais des libertés que la Révolution a pu donner, ou en tout cas prétendument donner, s'il n'y a pas de respect, ça partira dans une dictature. Ce n'est pas le terme qu'il utilise, mais celui qu'on peut traduire aujourd'hui. Effectivement, la terreur n'était pas la plus grande des démocraties. C'est pour ça que c'est très intéressant, donc. Même si, alors moi, je commence à devenir un lecteur passionné des Malaisac, où c'est justement les hussards noirs de la République, mais on parlait pas beaucoup de la terreur. Parce que expliquer justement que la République et la démocratie s'étaient fondées, si vous voulez, sur un régime qui était dictatorial, c'était pas très bien vu. Chateaubriand, n'oubliez pas aussi qu'il a émigré. Donc évidemment que sa pensée a évolué parce qu'il a fait même. Lui-même subit la révolution. Il le dit lui-même. Il dit que c'est une phrase qui est assez extraordinaire. Qu'il dit...
Il a émigré avec les encouragements de Malesherbes au printemps 1792. Malesherbes lui dit « Si j'avais votre âge, je partirais à l'armée des princes. » Et Chateaubriand rentre d'Amérique. Il découvre à quel point la situation s'est dégradée en quelques mois, et Malesherbes est absolument épouvanté du spectacle que donne Paris en 1792. « Si j'avais votre âge, j'irais à l'armée des princes. » C'est intéressant que ce soit Malesherbes, qui était un monarchiste libéral, qui ait donné à Chateaubriand ce conseil.
Mais c'est un conseil que non seulement Chateaubriand a appliqué, et en plus il l'a fait parce qu'il explique dans ses mémoires qu'il l'a fait par légitimité. Je vous cite cette phrase, « J'ai eu l'honneur d'être dépouillé 3 fois pour la légitimité. » Ce qui est extraordinaire, c'est d'être dépouillé 3 fois. C'est-à-dire que c'est le sacrifice, c'est presque la mort originelle pour le roi. La première, pour avoir suivi les fils de Saint-Louis dans leur exil. Alors, évidemment qu'il n'a pas forcément expliqué d'un premier coup que c'est pas lui qui a eu l'idée, mais ça, l'a quand même, ça lui a quand même servi.
Mais il l'a fait, il est allé, il s'est battu, il a été même, je crois, blessé. Il a combattu dans des conditions difficiles.
Et vous avez notamment deux choses où il explique, c'est justement les filles de Saint-Louis. La seconde, pour avoir écrit en faveur des principes de la monarchie octroyée, donc on va vendre une véritable défense de l'ancienne France, pour le coup. Pour finir, justement, la troisième, pour m'être tue sur une loi funeste au moment que je venais de faire triompher mes armes.
Et là, il parle des circonstances qui ont conduit à son éviction brutale du ministère des Affaires étrangères en juin 1824.
Exactement. C'est-à-dire qu'il va expliquer que les trois engagements qu'il a eu réellement pour la France, et il va considérer l'exil comme un engagement pour la France, parce qu'il va suivre le roi, va faire partie d'une première étape, deuxième étape, ce qu'il a critiqué, troisième étape, ceux qui l'ont critiqué et qui l'ont fait partir. Néanmoins, quand il, souvenez-vous, dans son discours à la Chambre, son dernier grand discours, c'est une déclaration d'amour à la légitimité et à la France, mais qui ne peut pas suivre ce qu'on lui demande. C'est assez extraordinaire.
Alors, vous parliez, on peut décortiquer ces deux points. Déclaration d'amour à la France. Il est un aspect de la politique de Chateaubriand sur lequel on insiste peu, c'est le souci ardent qu'il nourrissait de réparer l'humiliation de 1815, de traités qui, en soi, compte tenu de la situation, étaient les moins mauvais que l'on pouvait espérer, mais qui néanmoins consacrait une situation d'humiliation. La France avait été deux fois vaincue, occupée militairement, soumise au paiement d'indemnités de guerre, une occupation qui aurait dû durer 7 ans et que le duc de Richelieu a réussi à réduire à 3 ans. Et la grande préoccupation de Chateaubriand, qui nourrit sa vocation diplomatique, a été d'œuvrer pour restaurer la position de la France dans le concert européen. Et le congrès de Vérone a été
son chef-d'œuvre,
le grand moment de sa carrière politique, lorsqu'il obtient du concert européen la décision d'intervenir militairement en Espagne pour porter secours au roi Ferdinand menacé par une révolution, et qu'il obtient que ce soit la France qui, au nom de la communauté internationale, se charge de cette expédition et récolte pour la première fois les lauriers d'une victoire militaire, ce qui n'était pas arrivé depuis Wagram.
Alors, plusieurs points à ce que vous dites où je peux pas, on va pas renier l'histoire, donc je suis forcément d'accord avec vous et ce que vous dites. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même deux trois détails qu'on peut rajouter. C'est-à-dire que Chateaubriand, faut pas oublier, c'est un romantique. Il aime le passé, il aime la gloire. Même s'il était excessivement critique de Bonaparte, des Bonaparte, pour le citer. Personne ne peut être critique de la Grande Armée, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Il critique la Grande Armée en 1812. Vous avez tout à l'heure parlé du bulletin de santé de l'empereur. Mais quand on l'appelle pour le congrès de Vérone en 22, il ne faut pas oublier qu'en 1818, il y a une première...
Aix-la-Chapelle.
Voilà, traité Aix-la-Chapelle, on rejoint la 15e Alliance, c'est bon, on est remis en avance.
C'est le moment où l'occupation militaire prend fin.
Et on
est réintégré dans le jeu international.
Exactement. Et ça a été un jeu qui a été... C'était un jeu d'échecs fabuleux, mais qui a été réussi. Alors, on ne va pas parler de Talleyrand, mais il y a quand même une filiation qui est juste, notamment quand Talleyrand nous sauve en 1815. Il nous sauve. Sinon, on était par... Chez qui est-ce qui nous occupait ? Il va y avoir ce côté-là, Chateaubriand, qui va être un peu rentre-dedans. On le voit notamment dans le congrès de Vérone. C'est ce qu'il explique, bien évidemment, dans le congrès, dans son livre qui est publié, je crois, en 1838, les rapports qu'il a avec Metternich. Et Metternich ne l'aime pas. N'aime pas Chateaubriand. De un, parce qu'il est français. Et Metternich avait été ambassadeur en France, ça s'était pas très bien passé. Chateaubriand est connu déjà comme un grand écrivain. Et donc, il est en face de quelqu'un qui a une culture inimaginable. Et deux, enfin trois, pardon, c'est quelqu'un de l'ancienne France. Et il connaît tout ça, parce que Metternich, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Néanmoins, il a tout de même une idée d'histoire. Il a l'histoire européenne. Il connaît quand même ses voisins.
C'est un homme de l'ancienne Europe. Il est né en 1773.
Mais n'oubliez pas que Metternich est peut-être l'un des derniers vrais représentants en tant que chef de l'État, on peut dire ça comme ça pour aller très vite,
de chancelier, de voilà, chef de gouvernement.
Voilà, d'archi-chancelier, exactement, d'Autriche. C'était l'un des derniers représentants du gouvernement de cour. Des congrès de cour, le concert des nations, c'est que les cours itinérantes. Quand Chateaubriand raconte lui-même, notamment quand il va préparer Vérone, il est reçu par Madame de Lieven. Mmh. Et c'est peut-être le quatrième point où Metternich ne l'aime pas. Nos éditeurs s'en douteront. Madame de Lieven aime beaucoup Chateaubriand et Metternich aime beaucoup Madame de Lieven. Jeu à trois assez particulier. Donc il y a une volonté aussi encore plus détestable.
Il y a une rivalité.
Ou c'est plus qu'une rivalité. Et le congrès de Vérone, effectivement, va lui permettre, pour Chateaubriand, de briller sur la scène internationale et d'avoir un poste qui, je ne pense pas qu'il convoitait, mais où il a été peut-être l'un des meilleurs ministres qu'on a eu, c'est le ministre des Affaires extérieures, des Affaires étrangères. Parce qu'il a réussi à ramener la gloire étrangère sur la France. Pendant un laps de temps, certes, mais il a réussi ce travail-là.
Alors, Chateaubriand insiste d'ailleurs dans ses mémoires sur l'injustice du procès que l'on a fait à la Restauration d'être revenu par la volonté des puissances étrangères. Et il souligne ce point à juste titre. En 1815, les puissances étrangères ne voulaient pas du retour de Louis XVIII sur le trône de France. Et ce n'est certainement pas pour restaurer Louis XVIII qu'ils sont intervenus contre Napoléon, mais pour se débarrasser d'un homme qui perturbait l'équilibre européen de manière grave. L'idée des chancelleries européennes était, après la chute de Napoléon, d'établir à la tête de la France, première hypothèse, Napoléon II, l'Aiglon, petit-fils de l'empereur d'Autriche, ou deuxième hypothèse, Louis-Philippe d'Orléans. Louis XVIII était trop indépendant, trop sûr de lui, de son droit, de ce qu'on lui devait, de ce que l'on devait à la France, pour que les puissances étrangères l'acceptent de bon cœur. Et Louis XVIII a imposé son retour de manière habile. En 1814, il avait mis plusieurs semaines avant de rentrer en France. En 1815, trois jours après Waterloo, il passe la frontière. Parce qu'il sait très bien que s'il attend ne serait-ce qu'une semaine ou 15 jours, il ne rentrera jamais. On ne le laissera pas rentrer. Et la première ville où il entre, c'est Cambrai. Il est acclamé. La démonstration est faite que la France ne rejette pas Louis XVIII.
Voilà. Mais la France, en tous les cas, ne rejette pas un Bourbon. C'est-à-dire que si la question se posait déjà en avant, c'était Louis-Philippe, c'est pas possible, c'est pas l'histoire de France. En Orléans, c'est pas possible. Bon, ils auront réussi.
Il aurait été imposé par l'étranger.
On peut estimer ça, parce qu'il a quand même racheté le trône depuis l'étranger. L'émir les émigrés, quand même, ça lui a bien servi. Donc, si vous voulez, Louis XVIII a peut-être, déjà c'était un Bourbon, que c'était le frère de Louis XVI, mais c'était le prince de sang qui était le plus logique. C'est-à-dire qu'il a voulu jouer un consensus pur et dur, et qui pouvait fonctionner avec les dynasties européennes. C'est pour ça que la question, ou qui peut se poser comme ça, c'est quand la France prend la tête pour le congrès de Vérone de l'expédition d'Espagne. Déjà que nous, on devient un régime à peu près libéral, avec la monarchie constitutionnelle et la charte de Louis XVIII, on va faire remettre l'absolutisme en Espagne. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, peut-être que l'histoire de France s'est déplacée en Espagne et que Chateaubriand a voulu la montrer. Ça peut être un sujet de réflexion sur ça, justement. Quelle a été peut-être la vraie idée de Chateaubriand derrière?
Ce que souligne Chateaubriand également, c'est le souci constant de Louis XVIII puis de Charles X de mener une politique indépendante Contrairement à ce qu'a été la politique de la monarchie de Juillet dans le domaine diplomatique, j'ai relevé cette citation des Mémoires d'Outre-Tombe. « Nos souverains avaient le sentiment de la dignité nationale. Ils furent surtout rois à l'étranger, lequel ne voulut jamais avec franchise le rétablissement et ne vit qu'à regret la résurrection de la monarchie aînée. Une partie de la haine des cours d'Angleterre et d'Autriche contre la légitimité vient de la fermeté du cabinet des Bourbons. Une fermeté qui s'exprime notamment lors de l'affaire d'Alger. Lorsque, après la conquête d'Alger, l'ambassadeur d'Angleterre insiste auprès de Charles X pour que la France s'engage à se retirer d'Afrique du Nord. Et Charles X lui répond sur un ton que n'aurait pas désavoué Louis XIV. Monsieur l'ambassadeur, pour ce qui est d'intervenir à Alger, j'ai écouté l'intérêt de l'Europe. Pour ce qui est d'y rester, je n'écouterai que l'intérêt de la France.
C'est surtout typique de... C'est presque de l'humour très, très 18e, en réalité. Mmh. C'est des mots d'esprit fabuleux.
Mais là, et puis, il y avait la question de la légitimité. Mmh. La question de la légitimité, qui est une question centrale dans la carrière de Chateaubriand, et qui est d'une grande richesse. Car ce n'est pas seulement la légitimité dynastique.
Non, il y a aussi la légitimité d'un régime, en réalité. Je pense qu'on sera d'accord avec ça. Et, effectivement, vous avez un livre, je pense que vous devez connaître, La monarchie selon la charte, qui est... si on résume ce livre, c'est très drôle, mais c'est en gros, c'est La monarchie selon le moindre mal. C'est-à-dire que il n'est pas favorable de manière extrême à la charte, mais il explique par contre que c'est le meilleur des systèmes pour justement revenir à l'ancienne France. Il le dit lui-même d'ailleurs, c'est, je crois que c'est dans ses propos liminaires de la monarchie sur la charte, il dit que de toute façon, la France veut pour son roi trois manières, si vous voulez, de voir un roi légitime. L'ancien régime, bon, je pense que l'idée est abandonnée. Le despotisme, on a eu Bonaparte, donc l'idée sera encore moins avancée. Et le problème de la charte, justement, qui est une première vraie constitution.
Une monarchie tempérée par une charte qui garantit les libertés publiques et civiles. Mais dans cette charte, j'ai l'impression que Chateaubriand voit dans la charte une occasion de restaurer la royauté tempérée, garante, protectrice naturelle des libertés qui existait dans l'ancienne France avant que ces libertés des corps intermédiaires soient un peu comprimées par la monarchie absolue sous Louis XIV, l'occasion de la restaurer, de la rétablir en s'adaptant aux circonstances nouvelles créées par la rupture révolutionnaire. Et ce qui montre qu'il y a chez Chateaubriand un attachement sincère à ce nouvel équilibre, c'est que lorsque l'on lit la monarchie selon la charte et que l'on suit les déclarations faites par Chateaubriand dans les années 1820 et son attitude en 1830, on réalise que sa position n'a pas varié. Elle est toujours la même, avec, dans la monarchie selon la charte, cette préoccupation de mettre, de sanctuariser la monarchie, de la mettre hors de toute contestation, qu'elle soit réellement inviolable et sacrée, ce qui implique que le roi ait la prudence de ne pas descendre dans l'arène, ce qui a été l'imprudence de Charles X en 1829-1830.
Sauf qu'il faut tout de même rappeler, pour continuer sur votre propos, que l'une des premières objections que Chateaubriand sur la charte, c'est le fait d'ôter l'initiative des lois à la couronne. pour lui, c'est quelque chose, c'est que le pouvoir devient divisé. Lui, c'est le pouvoir de la couronne qui l'intéresse. Il rappelle même les lois fondamentales. Il va même rajouter, même s'il veut être un peu sur un peu une nouvelle monarchie, il veut quand même revenir pour la Chambre des Pairs en disant « on va quand même remettre les privilèges, mais que pour la Chambre des Pairs », pour montrer tout de même qu'il y a une continuité, mais qu'il ne faut pas non plus trop dépasser cette continuité. Si vous voulez, c'est un peu le même principe quand vous parlez des libertés. Qu'est-ce qui fait qu'on est libre ? C'est qu'on a quelque chose qui est encadré. C'est pas le côté abstrait, comme vous expliquiez tout à l'heure. Chateaubriand, lui, veut que tout, qu'il y ait des libertés, qu'il soit bien encadré. On le voit notamment sur la liberté de la presse, dont il parle beaucoup, énormément même, dans la monarchie sur la charte. C'est pour ça aussi qu'il va en partie quitter Charles X. C'est les lois vandales.
En tout cas, s'éloigner. Et s'éloigner des gouvernements de Charles X, du gouvernement présidé par Villèle et ensuite par Polignac. Mais derrière la notion de légitimité, il y a aussi chez lui l'idée du respect du droit, d'un ordre fondé sur le respect du droit et la recherche de la justice, sur la garantie des libertés concrètes de l'homme, qui est, selon lui, vraiment assuré et vraiment garanti par la liberté, par la royauté légitime. C'est la royauté légitime tempérée qui garantit le mieux le droit, la justice et les libertés concrètes. J'ai relevé cette phrase. La royauté légitime constitutionnelle m'a toujours paru le chemin le plus doux et le plus sûr vers l'entière liberté. Parce que la force que la légitimité dynastique confère à la royauté traditionnelle lui permet de faire toute sa part aux libertés de la population sans avoir besoin de recourir pour se maintenir à la contrainte ou à la corruption comme l'ont fait les autres régimes, qu'il s'agisse de l'Empire, de la monarchie bâtarde de Louis-Philippe, ou plus tard d'une république toujours soucieuse de gagner l'élection suivante.
N'oubliez pas aussi que dans tout cet acte politique, dans tous ces actes politiques et diplomatiques, je pense que Chateaubriand, il faut faire la part des choses, mine de rien. Même s'il y est, il y a quand même vraiment l'activité diplomatique qui est particulière, il n'y a pas que finalement que la gloire, il y a le bien commun. Chateaubriand, en fait, est peut-être l'un des plus grands défenseurs du bien commun. Voulant respecter le droit, la justice, répéter ce qui est même défendre la plus grande chose, je pense, du bien commun, qui sont les lois fondamentales. C'est ce qui va vous garantir la liberté. C'est ça qui est assez extraordinaire. Chateaubriand est un immense défenseur du bien commun. Vous disiez tout à l'heure, il y a quelques secondes, de manière très juste, où on oublie ça pour penser à la prochaine élection. Vous avez une phrase qui est assez c'est rigolote chez Chateaubriand, toujours dans la monarchie selon la charte, je crois, quand il dit « un avantage de la monarchie représentative ». Donc, bien sûr, c'est ce qu'il aime bien, hein, la monarchie représentative, je pense qu'on le voit quand on le lit, c'est d'amener les hommes plus habiles à la tête des affaires et créer une hérédité forcée de lumière et de talent. C'est-à-dire que pour lui, si on casse, même ça, en gros, si on crée une nouvelle aristocratie, aujourd'hui, cette aristocratie, vous pourriez la voir même dans l'administration. La toute-puissante administration, c'est une aristocratie. Kafka va même très bien le démontrer dans Le Château. C'est toujours celui du dessus qui va vouloir avoir raison et qui va réussir. Donc on va créer des nouvelles classes, justement, et qui vont être, à mon sens, anti-bien commun. Et ce qu'on peut comprendre, pourquoi Chateaubriand ne les cautionne pas et ne peut pas les conditionner, surtout.
Alors, pour prolonger cette réflexion, il y a un ouvrage que je souhaiterais recommander aux auditeurs par la richesse de ses développements et par les aperçus qu'il offre. C'est l'ouvrage qu'a publié il y a 20 ans Marc Fumaroli, Chateaubriand, Poésie et Terreur, qui interroge Chateaubriand dans sa relation avec Talleyrand, avec Fontaine, avec Rousseau, dont il a été un lecteur dans son enfance, dans sa jeunesse. Avec
J'ai été lecteur de Tchoupi à la plage aussi. Hein.
Je ne suis pas sûr que l'ouvrage ait déjà existé. Dans sa relation également avec l'œuvre de Saint-Simon, ou dans sa relation avec Tocqueville. Et c'est le point sur lequel je voudrais terminer, puisqu'il ne nous reste que très peu de minutes, la relation entre Chateaubriand et Tocqueville, qui est une relation dont peu d'auteurs parlent. Marc Fumaroli est à ma connaissance le seul à avoir insisté sur ce point. Chateaubriand, Tocqueville. D'abord, le lien de famille. Chateaubriand est en quelque sorte un oncle par alliance pour Alexis de Tocqueville, puisque le frère de Chateaubriand était le beau-frère du père de Tocqueville, qui a été le tuteur des neveux de Chateaubriand après que ceux-ci aient perdu leur père guillotiné en 1794. Leur père et leur mère guillotinés en 1794. Donc, un lien de famille. Chateaubriand est un personnage de l'enfance d'Alexis de Tocqueville. Lorsque l'on compare l'œuvre de Tocqueville et celle de Chateaubriand, on est marqué par les très nombreuses ressemblances. Le voyage en Amérique, 1791, publié en 1826, que Tocqueville lit et annote, et qui suscite en lui la soif d'aller lui-même voir ce qui se passe aux États-Unis, qui peut-être nous disent quelque chose de ce qui nous attend, de notre avenir, de notre futur. Lorsque Alexis de Tocqueville publie La démocratie en Amérique, qui lance le livre, qui le fait connaître, qui en assure le succès? L'oncle Chateaubriand. Lorsque Tocqueville termine le deuxième volume, qui vient se faire lire les bonnes pages et encourager le jeune auteur? L'oncle Chateaubriand. Qui fait élire le jeune Tocqueville à l'Académie française? L'oncle Chateaubriand. Il y a un lien étroit qui se resserre après la publication de La démocratie en Amérique. Alexis de Tocqueville est invité par Madame Récamier dans ses soirées littéraires. Et clairement, Chateaubriand regarde Tocqueville comme son disciple. Et ce qui est marquant lorsque l'on lit les deux œuvres, c'est de constater les similitudes sur des points importants. Cela commence dès le début, lorsque Chateaubriand évoque dans ses mémoires le lien étroit entre liberté et aristocratie. C'est aussi ce sur quoi insiste Tocqueville. Lorsque, à propos de la Révolution, passage que nous avions, que nous avons évoqué il y a quelques instants, Chateaubriand dit que ses deux grandes passions étaient la dignité de l'homme et la liberté. Et Tocqueville écrit exactement la même chose dans ses souvenirs. Mes deux grandes passions politiques sont la dignité de l'homme et la liberté. Cela se retrouve dans la monarchie selon la charte. La monarchie selon la charte, on en retrouve la synthèse dans la lettre que Tocqueville adresse au comte de Chambord en janvier 1852 pour lui expliquer qu'il est le recours face à Louis-Napoléon Bonaparte, face au nouveau césarisme qu'il déteste, à condition que le comte de Chambord prenne devant l'opinion certains engagements. Et ces engagements, c'est une monarchie tempérée, qui ressemble beaucoup à celle que décrit Chateaubriand dans La monarchie selon la charte. Dernier trait important, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, Chateaubriand explique la Révolution a eu trois époques. Première époque, la République. Deuxième époque, l'Empire. Troisième époque, la Restauration. Ouais. Dans les souvenirs, Tocqueville nous dit « J'avais cru sous la Restauration la Révolution terminée. » Et puis il y a eu 1830, car c'est toujours la même. Et puis après 1830, j'avais cru la révolution terminée. Et il y a eu 1848, car c'est toujours la même révolution. La révolution n'est pas terminée. Vous voyez, sur des points importants, sur les piliers de la pensée d'Alexis de Tocqueville sont marqués de l'influence de François de Chateaubriand, son oncle.
Et si vous me permettez de compléter, il a aussi à peu près le même parcours d'idées. c'est qu'il commence un peu libéral pour finir beaucoup plus conservateur.
Oui. Oui.
La démocratie en Amérique et le bilan qu'il fait, quand il fait le bilan, l'ancien régime et la révolution, même si c'est quelque chose complètement objectif, on ressent quand même les idées de Chateaubriand derrière.
Avec la même intuition, au retour d'Amérique, les États-Unis nous disent quelque chose de notre avenir parce que la démocratie égalitaire va s'imposer en Europe occidentale. Elle va s'imposer, il va falloir réfléchir à la manière d'en neutraliser les effets toxiques. Et là, Tocqueville est assez pessimiste. Peut-être davantage que Chateaubriand. En tout cas, il est très très pessimiste. Il agite un certain nombre de remèdes, sans trop y croire. Mais il est vrai que Tocqueville est un catholique qui doute. Chateaubriand a une foi qui semble moins tourmentée. L'homme est tourmenté,
à la fin.
Mais il semble avoir une foi un petit peu plus solide.
Il y a quand même une évolution, si on a encore une minute, juste pour qu'on voit ça. C'est...
Je crains que nous soyons coupés. Bon. Je vous remercie Louis. Je vous remercie
Merci
Louis
Philippe.
Pour cette conversation autour de Chateaubriand politique. Il me reste à vous souhaiter, chers auditeurs, une bonne semaine sainte et de saintes fêtes de Pâques.
Vous venez d'entendre le libre journal de Philippe Pichot-Bravard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 27 mars 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.